Cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Joseph le 3 mars 1987.
Une espèce de pensée dialectique chez Saint Anselme. puisque on va vers l'extrême. La signification de Dieu, c'est la signification d'un être dont on ne peut pas penser un être plus grand. C'est assez une réflexion dialectique, ça. Puisque c'est par comparaison qu'on pense Dieu. Alors, est-ce que ce n'est pas le propre de la pensée dialectique de toujours penser par comparaison? C'est-à-dire de mettre des oppositions et des oppositions les plus profond qu'elle soit, pour arriver à aller le plus loin possible dans la signification. Je crois qu'il y a quelque chose d'analogue dans la pensée hégélienne. Mais alors, la pensée dialectique est beaucoup plus explicite chez Hegel. Elle n'est pas explicite chez Saint-Anselme. À l'état de germe. Mais je crois qu'on retrouve quelque chose de semblable. Alors c'est ça qui serait intéressant à voir. C'est que d'une part et d'autre, plus de distinction, appréhension et jugement. C'est le jugement d'existence qui est premier, comme ce jugement d'existence au point de départ. Une obscurité. Il faut que cette obscurité progressivement tende à disparaître. C'est un tout obscur auquel on adhère. Dans la révélation, je suis. Et l'obscurité progressivement grâce à la division. Ça, c'est le procédé classique de la logique. Obscur se clarifie par la division. On est donc en présence d'une adhésion à l'égard d'un tout dont on veut saisir de plus en plus l'intelligibilité. Alors, on pourrait dire le jugement est entièrement ordonné à l'appréhension. Et que c'est vraiment l'appréhension qui va dominer. On se sert du jugement pour la saisie. Voyez, ce n'est pas du tout l'appréhension ordonnée au jugement. C'est le jugement ordonné à l'appréhension. Il me semble, hein, je dis il me semble parce que c'est assez délicat, mais ce serait important de pouvoir le préciser. Je fais le petit schéma pour que vous voyez mieux, puis après je vous citerai un petit texte de Hegel qui me semble confirmer ça. Voyez, dans l'analyse aristotélicienne, au plan critique de appréhension, jugement, ceci en critique, l'appréhension est l'élément et le jugement est l'acte parfait. Donc, à l'intérieur du jugement, j'extrais, je dis bien, c'est une extraction. J'extrais l'appréhension. Et l'appréhension demeure toujours ordonnée au jugement. Un aller-retour, si vous voulez. L'élément est premier dans l'ordre génétique, mais le jugement est premier dans l'ordre de perfection. Et je fais la distinction entre les deux. Donc on peut dire que l'appréhension est pour le jugement. jugement. L'appréhension n'est pas dernière dans la philosophie aristotélicienne. L'appréhension est ordonnée au jugement. Il me semble que si je pars du jugement de foi qui adhère, adhésion à un tout, Dieu, personne, le jeu divin, je suis. Dans cette adhésion, on va chercher l'intelligibilité, puisque ce tout est obscur. Le tout de la foi est toujours obscur. On va diviser pour saisir l'intelligibilité de ce tout. Donc le jugement va être en vue de l'intelligibilité. Soit signification du nom de Dieu, soit signification de la personne. Mais ce qui me semble important, c'est que le jugement est ordonné à l'intelligibilité. Si tout acte de connaissance du nous implique appréhension et jugement, nécessairement, l'ordre entre appréhension et jugement, ou jugement et appréhension, nécessairement, cet ordre, quand il est inversé dans un sens ou dans un autre, va donner deux perspectives tout à fait différentes. Une philosophie d'existence est ordonnée à la contemplation. Une philosophie où le jugement est ordonné à l'appréhension, cette philosophie est ordonnée à la signification, mais non plus à la contemplation. D'un côté, parce que l'appréhension est ordonnée au jugement, la transcendance et respecter le jugement saisit l'autre. L'appréhension saisit toujours, parce qu'à la mode d'assimilation, saisit toujours l'immanence et l'unité. Il me semble qu'on peut dire cela si Aristote et Hegel représentent les deux grands génies. Pas ici qu'ils sont tous les deux à égale distance et que tous les deux cherchent la vérité et que tous les deux donnent une grande synthèse géniale. L'une est ordonnée à la contemplation de l'être premier et l'autre est ordonnée à la signification de la personne, du « je suis ». Je suis identifié avec le je suis divin. Il me semble que nous pouvons dire ça. Alors, je vous donne ce dernier texte et puis après, nous avancerons un peu. Est-ce qu'on peut pas rester indéfiniment à cette perspective? Mais ça vaut la peine d'essayer de saisir ce sommet de la pensée contemporaine. C'est dans l'encyclopédie des sciences philosophiques, en abrégé. C'est un petit abrégé. Dans l'extériorité, mon retour concret en moi-même consiste en ce que moi, qui suis la relation infinie de moi-même à moi-même, je suis, en tant que personne, la répulsion de moi-même, à l'égard de moi-même. Alors, essayez de penser. Et que dans l'être d'autres personnes, personne, dans ma relation à elle et dans le fait d'être reconnu par elle, qui est ainsi réciproque, j'ai la présence de ma personnalité. Vous voyez que c'est la relation qui, en définitive, va définir la personne. Très curieux. C'est normal, d'une certaine manière, par le procédé dialectique, par le procédé du primat de la division, la signification ultime ne peut être que la relation. Je vous relis ce passage, parce qu'il est difficile à comprendre. Mais c'est intéressant, parce que c'est quand même, je crois, ça qui nous fait saisir. J'ai la présence de ma personnalité. La présence, vous voyez. Ce n'est pas du tout l'appréhension au sens aristotélicien de l'acuité. C'est la présence. La présence de celui qui est le plus immanent à moi-même. L'extériorité, mon retour concret en moi-même, consiste en ce que moi, qui suis la relation infinie de moi-même à moi-même, moi je suis la relation infinie de moi-même à moi-même, je suis, en tant que personne, la répulsion de moi-même, à l'égard de moi-même. Donc, répulsion, négation, le rejet de moi-même à l'égard de moi-même. Et que dans l'être d'autres personnes, dans ma relation à elle, et dans le fait d'être reconnu par elle, qui est ainsi réciproque, j'ai la présence de ma personnalité. C'est un tissu de personnes qui fait la présence de ma personnalité. Oui, bien, ce tissu, quand Merleau-Ponty dit que l'être, c'est un tissu de relations, je crois qu'on retrouve au niveau de l'être ce que Hegel dit ici au niveau de la personne. Dans sa doctrine du droit, Hegel définit la personne par la liberté. Dans la mesure où chacun est reconnu comme une essence libre, il est une personne. C'est pourquoi le principe du droit peut s'énoncer aussi de cette manière. Chacun doit être traité par autrui comme une personne. Le concept de personnalité inclut en lui l'égoïté ou singularité, laquelle est une réalité libre ou universelle. C'est en vertu de leur nature spirituelle que les hommes ont une personnalité. On tourne toujours autour. Mais c'est toujours cette idée, vous voyez, de l'esprit identique à l'être. La personne ne peut être saisie dans l'esprit. L'esprit, c'est une relation infinie. Par l'esprit, il y a quelque chose d'une ouverture vers l'infini, vers le transcendant. Et je ne peux saisir le noyau de la personnalité qu'en essayant de saisir cette relation fondamentale. Et comme c'est curieux, quand le théologien Thomas d'Aquin définit la relation, la personne dans la très sainte Trinité, une relation subsistante, retrouve quelque chose d'analogue dans cette perspective hegelienne, une relation subsistante. Alors, si je suis une relation subsistante, vous comprenez bien, je ne peux me définir comme une personne que grâce aux autres personnes. Comme le Père ne se définit personne que par rapport au Fils. C'est relatif. Dans la très sainte Trinité, le Père ne se définit personne qu'à l'égard du Fils, et le Fils ne se définit personne qu'à l'égard du Père. Et l'Esprit Saint se définit personne qu'à l'égard du Père et du Fils. Laïciser ça et essayer de saisir la signification profonde de cela. Et vous avez cette recherche. Alors c'est d'une complexité énorme, puisque vous n'avez plus la simplicité de la foi. Et c'est très curieux de voir ça. Oui, alors, si je regarde Saint Anselme, le problème de Saint Anselme, c'est la simplicité de Dieu. Et le problème de Hegel, c'est la Trinité dans la simplicité. Mais il y a un parallélisme entre les deux. C'est ça qui me frappe beaucoup. Et qu'on voit que des deux côtés, l'adhésion de foi va être comme la matière à réflexion. Pour extraire l'intelligibilité. Donc, le jugement est matériel par rapport à l'appréhension. Tandis qu'au contraire, dans la perspective aristotélicienne, l'appréhension est au service du jugement. Là, on tient une clé, mais difficile, hein, parce qu'elle est ultime. C'est d'ordre critique. Mais c'est curieux, c'est très curieux. Ceux qui ont le temps de réfléchir, regardez Saint Anselme et Hegel, la signification du nom de Dieu et la signification de la personne. Au sein de la très sainte Trinité. Mais évidemment, on ne parle plus de la très sainte Trinité. C'est le je suis. Présent dans le je suis trinitaire. Alors, la conclusion, elle est simple. Si, de fait, l'appréhension est ordonnée au jugement, grâce au jugement, la transcendance est sauvegardée. Et l'immanence de l'appréhension, l'appréhension c'est dans l'immanence, puisque c'est une assimilation intentionnelle, est ordonnée à la transcendance. Tandis qu'au contraire, si le jugement est ordonné à l'appréhension, la transcendance est ordonnée à l'immanence. Et le tour est joué. Le « je suis transcendant de Dieu » est ordonné où « je suis immanent de moi ». C'est très gros, mais c'est comme ça. Oui, le « je suis transcendant de Dieu » est ordonné au « je suis immanent » de Descartes. Ce qui se passe quand on regarde tout l'hégélianisme, toute la transcendance de la foi se termine dans une immanence la plus grande qui soit. C'est dans ce sens-là que la foi disparaît dans l'immanence de l'appréhension. Mais ce n'est plus la signification de la simplicité de l'être, c'est le tout qui est la personne. Alors c'est là. Il faut comprendre que la philosophie du tout, c'est une philosophie de la personne. Après Hegel, puisqu'on est devant un sommet, hein, faut pas l'oublier, Hegel reste un sommet. Et ça, je crois que pour la philosophie contemporaine, Hegel reste un sommet. On l'a dit plus d'une fois et ça reste vrai, je crois que Hegel, pour nous, comprenez bien, joue le rôle d'Aristote par rapport au Moyen-Âge. Il fascine égal de droite, égal de gauche. On voit très bien comment. Alors, première position qui serait intéressante à regarder. Quelqu'un comme Kierkegaard. Kierkegaard, si vous le prononcez bien. Kierkegaard représente une opposition à l'hégélianisme. Une opposition très curieuse. Une opposition religieuse. Et une opposition de croyants. Kierkegaard est plus croyant que Hegel. Il sent bien que l'hégélianisme absorbe la foi. Pour Kierkegaard, c'est la conscience à proprement parler qui constitue la personne. Alors là, nous avons quelque chose qui est très proche de toute la pensée moderne. C'est la conscience. Hegel est trop difficile pour la spéculation. Tandis que Kierkegaard est plus facile. C'est la conscience à proprement parler qui constitue la personne. Il dit ceci, et je vous cite ce passage qui est dans le journal. Il est dans le traité du désespoir. La conscience intérieure est le facteur décisif. Quand il s'agit du moi, elle en donne la mesure. Plus il y a de conscience, plus il y a de moi. Car plus elle croit, plus croit la volonté. Et plus il y a de volonté, plus il y a de moi. Chez un homme sans vouloir, le moi n'existe pas. Mais plus il y en a, plus il en a. Plus il a également conscience de lui-même. L'exaltation du vouloir dans la conscience. Voyez l'éthique. C'est l'homme de l'éthique, Kierkegaard. Et du primat de l'éthique. Mais quel est ce moi? Le moi est la synthèse consciente d'infini et du fini. Se rapporte à elle-même, ce qui ne peut se faire qu'en se rapportant à Dieu. C'est dans le traité du désespoir. Donc, le moi est la synthèse consciente d'infini et du fini, qui se rapporte à elle-même, ce qui ne peut se faire qu'en se rapportant à Dieu. Le moi, dit encore Kierkegaard, est un rapport se rapportant à lui-même. Autrement dit, il est dans le rapport, l'orientation intérieure de ce rapport. Le moi n'est pas le rapport, le retour sur lui-même de ce rapport. C'est la conscience de la relation, vous voyez bien. C'est pas le rapport, c'est... Le moi est un rapport se rapportant à lui-même. Toujours l'attitude réflexive. L'attitude réflexive est absolument nécessaire dans toutes ces philosophies. Et c'est l'attitude réflexive qui donne la réalité. Le moi est un rapport se rapportant à lui-même. Autrement dit, il est dans le rapport, l'orientation intérieur de ce rapport. Le moi n'est pas le rapport, mais le retour sur lui-même de ce rapport. L'homme est une synthèse d'infini et de fini, de temporel et d'éternité, de liberté et de nécessité. Bref, une synthèse. Une synthèse est le rapport de deux termes, de ce point de vue. Le moi n'existe pas encore. Vous êtes tout le temps en devenir, tout le temps en recherche de ce moi. Et c'est tout à fait différent, c'est beaucoup plus facile à saisir puisqu'on est dans l'ordre psychologique. Tandis que dans Hegel, vous n'êtes pas du tout dans l'ordre psychologique. Vous partez de
que là, un tel rapport se rapporte à lui-même. Un moi ne peut avoir été posé que par lui-même ou par un autre. Si le rapport qui se rapporte à lui-même a été posé par un autre, le rapport, certes, est bien un tiers, mais ce tiers est encore en même temps un rapport, c'est-à-dire qu'il se rapporte à ce qui a posé tout le rapport. Un tel rapport, ainsi dérivé ou posé, est le moi de l'homme. C'est un rapport qui se rapporte à lui-même et se faisant à un autre. De là vient qu'il y a deux formes de véritable désespoir. Le désespoir se condense à proportion de la conscience du moi, mais le moi se condense à proportion de sa mesure. Et quand la mesure est Dieu, infiniment, le moi augmente avec l'idée de Dieu, et réciproquement, l'idée de Dieu augmente avec le moi. Mais que l'ontologisme là est explicite. Impossible de définir l'homme et le moi en dehors de l'idée de Dieu. Pourquoi? Parce que je ne peux me définir que par rapport à un autre. Puisque je pars du rapport. Voyez, le primat de la relation, c'est très curieux, c'est là on voit très bien comment la théologie, dans ce qu'elle a eu de plus profond, a défini la personne, une relation subsistante, et on ne sort pas de cette relation subsistante. C'est ça, peut-être clé. Laïciser la relation subsistante et vous comprendrez cette logomachie. Très très curieux. Et je crois que c'est la clé. Hein, aussi Kierkegaard dira-t-il que dans le christianisme, le plus important c'est la personne. Il le dit explicitement donc. C'est net. Alors, toute la philosophie de Kierkegaard est une philosophie chrétienne. Donc elle implique la foi. Ni la personne, telle qu'il la comprend, c'est la subjectivité. C'est le moi se rapportant à lui-même, se retournant sur lui-même à l'intérieur même de son rapport à Dieu. Dans la foi et l'amour qui ne peuvent être que personnel, individuel. Oser à fond être soi-même, oser réaliser un individu, non tel ou tel, mais celui-ci, isolé devant Dieu, seul dans l'immensité de son effort et de sa responsabilité, c'est là l'héroïsme chrétien et avouons sa rareté probable, l'inquiétude et le vrai comportement envers la vie, envers notre réalité personnelle. Et par suite, pour le chrétien, elle est le sérieux par excellence, l'inquiétude. Oui, ça va vite vers l'angoisse. Maintenez l'inquiétude, c'est le sérieux chrétien. Quand vous n'êtes pas inquiet, vous n'êtes pas sérieux. Vous êtes bourgeois. C'est extrêmement curieux. Alors il faudrait voir comment ce primat de la relation engendre l'inquiétude et l'angoisse. Mais engendre la perte d'identité. C'est peut-être ça. Le primat de la relation engendre la perte de l'identité et donc engendre l'angoisse. Si vous ne pouvez vous définir toujours que relatif à un autre, et cet autre en définitive c'est Dieu, comme vous ne l'atteignez jamais, vous perdez. Vous voyez, l'attitude mystique, on se perd dans l'océan divin, comme la petite éponge dans l'attitude mystique, la foi s'appuie sur le roc, mais dans cette laïcisation d'une attitude mystique, la perte de soi-même dans cet océan infini fait que c'est l'angoisse. En définitive, chez Kierkegaard, la personne se définit par le paradoxe et la solitude radicale de la foi. La foi est ce paradoxe, et l'individu ne peut absolument pas se faire comprendre de personne. D'où l'angoisse. Je ne suis compris par personne. Un chevalier de la foi ne peut absolument pas en secourir un autre. Ou bien l'individu devient le chevalier de la foi en se chargeant lui-même du paradoxe. Ou bien il ne le devient jamais. On voit sans peine l'importance qu'a chez Kierkegaard le problème de la personne. S'il est assez difficile de préciser philosophiquement comment il la conçoit. Cependant, il dit explicitement que c'est la possibilité de la conscience qui constitue la personne. La possibilité de la conscience. La personne va se définir, voyez, par le point de vue de la possibilité. La possibilité de la conscience qui constitue la personne. Or, cette possibilité implique un rapport à un autre, et cet autre, au sens plénier, c'est Dieu. Car l'homme est une synthèse du fini et de l'infini. Ce rapport à Dieu ne peut être vécu que dans la foi, grâce au sceau de la foi, dans le fameux sceau de Kierkegaard. En définitive, la personne ne peut être que la personne chrétienne, celle qui vit le retour sur soi dans la relation à Dieu. Donc vous retrouvez l'ontologisme, non pas au niveau de l'être, mais au niveau de la personne. C'est ça qui m'intéresse ici, vous voyez. De retrouver que tout le problème philosophique qui, au point de départ de la philosophie grecque, est au niveau de l'être. Dans la philosophie contemporaine, se situe au niveau de la personne. Je crois que c'est assez net, ça, quand vous regardez tous ces textes. Vous apercevez que toujours le problème n'est plus situé au niveau de l'être, mais c'est situé au niveau de la personne. Il faut qu'on soit conscient de cela. Autrement, on ne redécouvrira jamais la métaphysique. Et voyez que chez Kierkegaard, le problème de la personne reste au niveau éthique. C'est une éthique de la foi. Et ça, c'est très net, c'est une éthique de la foi. C'est une éthique du chevalier de la foi. Une espèce de noblesse qu'il y a chez Kierkegaard. C'est le chevalier de la foi. Donc, c'est la noblesse de la foi qu'on doit essayer de comprendre. Alors, le problème très important pour nous, c'est de saisir comment, dans Husserl, on découvre le problème de la personne. Vous voyez, vous essayez de comprendre comment progressivement ou parallèlement au problème de la personne, le problème de la conscience. Les deux sont simultanés et inséparables. Je crois qu'on ne peut plus séparer conscience et personne. C'est assez normal. Alors, il faut le voir à partir de la foi. Dans les idéennes, Husserl affirme: bien que la psychologie et les sciences de l'esprit soient atteintes par la mise hors circuit il y a une phénoménologie de l'homme, de sa personnalité, de ses propriétés personnelles, de son courant de conscience en tant qu'homme. Donc c'est ça, c'est tout ce problème qui va être le sien. Cette mise entre parenthèses de l'exister pour s'installer dans la phénoménologie de l'homme et de sa personnalité. Alors je crois que pour bien saisir cela, il faut, comme je vous l'ai dit, comprendre que Husserl est d'abord un mathématicien. Il ne fait pas partie du tout du clan des philosophes. Tandis que les autres sont des théologiens ou des philosophes. Hegel est d'abord un théologien. Puis, il se rabat sur la philosophie, étant donné la faiblesse des théologiens. Il le dit. Husserl est d'abord matheux, d'un mathématicien. Quelqu'un comme M. Vautier, mathématicien, s'intéresse beaucoup à Husserl et à la thèse Husserl, mathématique. Il l'a traduite. Il a promis de me l'envoyer. Parce que c'est peut-être très intéressant de regarder là les premières intuitions et de comprendre à partir de ces premières intuitions mathématiques. Les mathématiciens sont avant tout des intuitifs. Si vous n'êtes pas intuitif, surtout ne faites pas de mathématiques. Les mathématiciens sont intuitifs. Et c'est peut-être cela qu'on doit saisir dans Husserl. Son intuition première. Une intuition mathématique implique toujours la mise entre parenthèses de l'exister. Parce que le propre des mathématiques, c'est toujours à l'intérieur de l'intentionnalité. Ceci, déjà, Aristote l'avait dit. Face à Platon, les mathématiques regardent un être abstrait. C'était ça la grande intuition d'Aristote par rapport aux mathématiques. Les mathématiques regardent un être abstrait, donc... Quand Aristote dit que les mathématiques regardent un être abstrait, c'est-à-dire un être qui est coupé du sensible. Et si on est coupé du sensible, on ne rejoint plus l'exister et l'être. Alors c'est à partir de là qu'il faut essayer de comprendre ce problème husserlien de la personne. Si la personne est avant tout prise dans la conscience et le rapport. Et la relation, on comprend comment on peut en donner une phénoménologie qui reste uniquement dans la forme attentionnelle.